cet après-midi. Nous tournons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, pour notre méditation. Matthieu, chapitre 16, versets 13 et suivants. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qui n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Jusque-là, la parole de Dieu. Un passage très riche, un passage avec beaucoup d'enseignements pour nous et pour le monde entier. Jésus a posé une simple question, une toute petite question, avec des conséquences éternelles. En tant que pasteur évangéliste, j'ai l'occasion de parler avec des gens. C'est normal, ça fait partie de ma vocation. D'essayer de s'aimer la bonne parole là où je suis. Et quand je m'entretiens avec les uns les autres, j'entends davantage de questions que de réponses. Il m'apparaît à cette écoute, cet échange, d'entendre les gens qui ont des doutes sur la réalité de Dieu, ou des gens qui cherchent Dieu, ou des gens qui posent souvent plusieurs questions. Donc j'ai fait un petit listing pas dans l'ordre, mais les gens posent des questions comme « Dieu existe-t-il vraiment ? » Et s'il existe, que fait-il ? Pourquoi tant de malheurs dans le monde ? Et s'il n'existe pas, ils ont du mal à répondre à cette question. Quel Dieu n'existe pas absolument pour eux ? Et ils posent la question aussi, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de connaître Dieu ? À quoi me sert de connaître Dieu ou de connaître la Bible? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que la Bible est un document historique fiable? Souvent, c'est une question. Et enfin, qui est Jésus? C'est un peu la question d'aujourd'hui. Et nous abordons notre texte qui se situe à un moment décisif dans le déroulement de la vie de Jésus dans l'Évangile qui raconte sa vie. Jésus interroge ses disciples au sujet de sa propre personne et en conséquence de sa mission spirituelle. Premièrement, Jésus leur demande comment il est perçu par sa génération, par le monde en général. Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 4 réponses ont été données par les disciples. Jean-Baptiste, Élie ressuscité, Jérémie ou l'un des prophètes. Les opinions diverses de ses contemporains ne sont pas sans mérite, parce que chacun des prophètes nommés a des ressemblances avec Jésus. Ils ont des caractéristiques semblables à celles de Jésus. Mais Jésus les a tous surpassés, parce qu'il est venu non seulement pour annoncer, pour parler de la parole de Dieu, mais aussi pour bien accomplir ce qu'il a dit. Jésus n'a pas parlé dans l'air comme cela, mais il accomplissait ce qu'il annonçait. Les opinions du monde sur lui sont souvent erronées, mais cela ne nous surprend en rien. L'opinion générale est influencée par des facteurs divers, plus ou moins rationnel, plus ou moins fondé. C'est ainsi qu'à l'époque et dans le milieu de Jésus de Nazareth, il y avait des personnes religieuses qui attendaient un prophète, un envoyé de Dieu, qui parlerait et qui agirait avec force et puissance, qui exercerait le pouvoir politique. En voyant et en entendant Jésus, ils ont donc pensé tout de suite au personnage puissant de l'Ancien Testament, les prophètes de Dieu des armées. Imaginez toutes les anges qui forment une sorte d'armée autour de Dieu. En 2019, l'opinion le plus répandue sur Jésus est moins précise. Aujourd'hui, on n'attend rien et tout en même temps. Jésus apparaît comme un être flou. Son personnage historique est incertain, mis en doute par notre société. Sa figure est au centre des mythes, soi-disant, et au cœur des traditions humaines. Selon le monde aujourd'hui, Jésus n'est plus qu'une personne bien définie par ses actes et par ses paroles, mais une idée ou un modèle qui sert de fondement à des théologies personnelles que chacun adapte à ses préférences, à ses circonstances personnelles. Ces opinions modernes ne s'accordent pas avec les récits bibliques qui ne les justifient en rien. Le petit Jésus du 21e siècle n'est qu'une statue creuse, une idole de relativisme et d'universalisme mal entendu. En regardant notre texte en Matthieu, aussi rapporté en Luc et en Marc, dont les trois évangiles même, racontent les mêmes scènes, nous voyons que Jésus répète sa question et la pose en direction de ses disciples. « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, le pêcheur de poissons, a répondu promptement « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et si c'était son dernier mot, comme on dit sur les émissions télévisées, Simon a gagné le grand lot. 3 millions d'euros parce qu'il a répondu correctement. Il a mis dans les mille. Quelle belle confession pour un homme de peu de foi. Pierre, rappelez-vous, c'est lui qui, parmi d'autres, a eu peur dans le bateau pendant la tempête. Il a eu peur. Et il a mis en doute si Jésus pouvait faire la pêche miraculeuse. Il a travaillé toute la nuit, ils n'ont attrapé rien. Et ils doutaient, mais Jésus a rempli leur bateau de poissons. Jésus, par une simple parole, a apaisé la tempête. Eh bien, c'est le même Simon, Pierre, qui, rempli de l'Esprit de Dieu, a répondu avec justesse la plus grande question de sa vie. Pierre a dit « Tu es le Christ ». Qu'est-ce que signifie ce mot « Christ » Nous le prononçons facilement et parfois en vain. Mais pour un juif dévoué et pieux, le mot « Christ » est réservé seulement au Messie, loin de Dieu, trois fois saint. Dans la pensée hébraïque, le Messie viendra pour la délivrance de tous les fidèles d'Israël. Le Christ est un personnage plus grand qu'on peut imaginer. Il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, il devrait être un meneur d'hommes qui libérerait le peuple de Dieu de l'occupant romain. Et Simon-Pierre a dit « Tu es le Christ, le Dieu vivant ». Et en retour, Jésus affirme devant tous ses disciples que Simon-Pierre est un homme béni parce qu'il a reconnu en son maître, en Jésus, la réalité de l'incarnation de Dieu. Puis Jésus lui donne un nouveau prénom. Un grand événement, ça vaut un nouveau prénom. Pierre, qui signifie « roc », c'est le maintenant, il n'est plus simplement Simon, il est Pierre, qui signifie « roc » ou « pierre angulaire ». Jésus a fait ainsi un jeu de mots. « Tu es Pierre, Petros, et sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église. » Donc c'est la même racine, vous entendez. « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Ça veut dire que l'église va avancer, va prendre du terrain, et même le séjour des morts ne va pas arrêter cet avancement. La pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église n'est certainement pas la personne de Simon-Pierre, pas plus que celle de ses successeurs, mais le contenu de sa confession, la réalité présente dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'origine de cette expression « pierre angulaire » se trouve en Ésaïe chapitre 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion, en Israël, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » C'est-à-dire, on peut compter sur lui, cette pierre angulaire. La confession de Simon, renommée Pierre, n'a pas été le résultat d'une sorte de flash spirituel, mais il a été dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, face au Fils de Dieu. Mais elle a été dite, et grâce à cette confession, nous recevons la promesse que Jésus-Christ est le garant de son Église. C'est lui, c'est Jésus, pas nous, qui est à la fois le fondement et le constructeur de cet édifice vivant, dont nous sommes que des pierres, utiles certes, mais pas fondamentales. Nous sommes des pierres vivantes que Dieu peut utiliser. Cette semaine, nous avons travaillé un peu à côté dans la salle que nous allons utiliser prochainement pour notre salle de culte, et nous avons bâti un mur. Après le culte, je vais vous ouvrir le rideau pour que vous voyez ce bel ouvrage. Jean-Jacques et James et moi-même et Sylvain étaient aussi présents pour travailler l'électricité. Et donc, ce que j'ai appris pendant ces deux jours de construction, c'est qu'il faut commencer avec un bon fondement. Il faut bien nettoyer et rendre le sol propre et il faut que ça soit solide. C'est très solide à côté, je vous assure. Et donc, nous avons mis le ciment et le sable ensemble et on a commencé en posant le premier bloc, le premier parpaing. Voilà, j'ai pris le mot. Et ensuite, avec une file et avec du plomb, on trouve le niveau exact et on trouve ce qui est juste par rapport à cette première pierre angulaire qu'on a posée sur le bon fondement. J'ai pris beaucoup de choses en travaillant avec mes mains, avec James et avec Jean-Jacques. Et j'en suis reconnaissant. Dieu est en train de construire son Église avec vous et moi, avec des pierres vivantes qui apportent leur contribution. Dieu est à l'œuvre, mais nous devons garder le cap et l'alignement sur Jésus, qui est notre pierre angulaire. C'est là une vérité toujours valide, admissible encore aujourd'hui. Nous sommes un peuple rassemblé et soudé ensemble par une confession commune. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jusqu'ici, vous avez entendu deux points de vue sur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ selon les opinions du monde Et qui est Jésus-Christ d'après la confession de Pierre? Rappelez-vous que quelques minutes plus tard, Pierre s'est trompé gravement en disant « Non, Seigneur », deux mots qui ne vont pas ensemble. Soit tu dis « Seigneur, oui, je te suis », ou tu dis « Non, je ne veux pas » et tu ne me suis pas. Mais « Non, Seigneur », ça ne va pas. Et quand Jésus annonçait qu'il voulait monter à Jérusalem pour souffrir, mourir et, aux mains des hommes religieux, Pierre n'a pas compris que sa mission était de se donner comme un sacrifice parfait. Pierre pensait toujours que Jésus sera reconnu comme le roi d'Israël et qu'il prendra la place du roi Hérode et qu'il va chasser Pilate et tous les Romains définitivement. Pierre s'est trompé dans sa compréhension du rôle du Messie. Pierre a dit juste, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Mais Pierre était lent à entendre et croire ce que cela signifiera. Il fallait que Pierre écoute mieux ce que Jésus lui a dit. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Nous passons au dernier volet. Maintenant, je vous propose que nous regardions ce que Jésus-Christ a dit de lui-même. Nous passons de l'évangile de Marc à l'évangile de Jean. Nous avons cette affirmation très connue et révélatrice. Je passe rapidement. Le premier, c'est « Je suis la lumière du monde ». Jésus l'a dit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. » Dans l'évangile de Jean, connaître Dieu, c'est voir Dieu. Et pour voir, il faut la lumière. Et quand il dit au début de son évangile qu'on ne peut pas voir Dieu, sauf si on est né de nouveau. Si Dieu change notre cœur et nous donne sa lumière pour qu'on voit. Jésus a aussi dit, « Je suis le pain de vie », en chapitre 6. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Évidemment, c'est une métaphore. Le pain est ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne, et Jésus est ce que nous avons besoin spirituellement pour avoir une relation étroite avec Dieu. Troisième affirmation, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ça c'est dans Jean 11, versets 25 et 26. Jésus a parlé ces paroles lors d'un drame, le décès de son ami Lazare. Et il a porté un réconfort à ses sœurs Marie et Marthe. Et nous passons tous par des pertes des êtres chers. Mais le seul réconfort, c'est de connaître que Jésus a le pouvoir de nous redonner la vie, de nous donner un sens à notre vie et aussi une assurance après la mort. Jésus a dit aussi au chapitre 15, « Je suis le vrai cep, le pied de vigne. » En Israël, il y avait le figuier qui était important, l'olivier et aussi la vigne. Donc ces trois cultures sont essentielles à leur culture. Et Jésus s'est dit, « Je suis le vrai cep, le vrai pied de vigne. » Et mon Père est le vigneron. Donc il nous invite à rester attachés à lui et devenir des sarments, des branches qui portent beaucoup de fruits. Jésus dit aussi au chapitre 10 deux phrases. Il dit que je suis la porte des brebis. Quelqu'un qui entre par moi sera sauvé. Donc la bergerie, c'est le lieu de sécurité pour les moutons, pour les agneaux. Et il y a une seule porte et celui qui entre par la porte sera donc soigné. Le berger prend soin de tous ceux qui entrent. Il regarde s'il a une blessure, il pense ses plaies, il prend soin de ses agneaux. Et il entre et il peut sortir le lendemain pour aller dans les pâturages. Mais celui qui passe par un autre passage, qui saute la clôture, C'est le voleur, c'est l'ennemi. Donc Jésus est la porte, il faut passer par lui. Il dit aussi que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça nous assure aussi que Jésus est là pour nous protéger, pour se sacrifier, pour s'interposer entre nous et l'ennemi. Dans le cas des moutons, c'est souvent le loup ou l'ours qui vient pour tuer et manger. Et le bon berger est là pour frapper et sauver les siens. Et il donne sa vie, il s'interpose pour nous. Et la dernière affirmation, le septième, c'est au chapitre 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans ce passage, les disciples se demandent, mais Jésus, tu pars, tu dis que tu pars, tu vas nous quitter, mais tu vas où? Nous voulons te suivre là où tu vas. Il dit, non, tu ne peux pas, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous voulez me suivre, il faut me suivre dans le sens spirituel. Pendant toute sa vie, même à la fin, Jésus a parlé très clairement de lui-même, de sa personne et de sa mission sur terre. La dernière semaine, quand il a été abandonné et trahi par tous ses amis, les soldats, les responsables d'Israël ont l'amené devant le souverain sacrificateur qui lui a demandé, « Je t'assure, par Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus a répondu, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Jésus a répondu très clairement qu'il était le Christ. On ne peut pas le nier. Quelle est notre réponse à toutes ces paroles? Il me semble que trois choix sont possibles vis-à-vis de Jésus. Et je prends cette idée d'un écrivain anglais qui s'appelle Lewis, C.S. Lewis. Le premier choix, on regarde Jésus comme un homme dérangé mentalement, un fou. Mais cela ne tient pas parce que Jésus a parlé, il a agi avec beaucoup de lucidité. Et quand il était un petit garçon, les docteurs de la loi, les docteurs, les professeurs juifs ont remarqué son intelligence. Jésus n'était pas fou. Les personnes folles ne sont pas capables de faire des miracles comme ceux que Jésus a fait. Deuxième choix, on considère Jésus comme un homme bon qui a glissé petit à petit vers l'erreur. En fait, Jésus avait des bonnes idées, mais il est allé trop loin. En fait, au fond, sur cette question de sa personne, de son identité, il a menti. C'est le deuxième choix. Ce regard sur Jésus, cette approche de Jésus et celle des personnes religieuses de son temps, c'est un regard d'aveugle. C'est ce qu'on entend, une personne complètement sourde. Mais nous, les chrétiens, nous croyons autrement. Tout ce que Jésus a dit était juste et vrai. Quand il a prophétisé sur ses propres souffrances, sa parole était correcte, jusqu'au détail. En plus, sa vie n'a pas du tout été un tissu de mensonges. Il a vécu conformément à ceux qui disaient « Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean 18, 37. Le troisième choix, la dernière et troisième optique, est celle de la foi chrétienne. On accepte par la foi Jésus comme étant Messie, le Christ de Dieu. Sa mort sur la croix trouve une signification personnelle parce qu'elle est le signe d'une substitution personnelle. Jésus étant innocent, moi je suis comme tous les autres coupables devant Dieu. Mais l'homme excellent envoyé par Dieu a pris ma place sur la croix. Et en bref, pour le chrétien, Jésus est en même temps sauveur et Seigneur. Cette réalité ne doit pas être cachée, mais au contraire, proclamée autour de nous avec beaucoup de joie. En conclusion, je vous laisse une question. pour votre méditation. Comment dois-je vivre différemment grâce à cette belle confession de Pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que l'Esprit Saint nous encourage et nous inspire cette semaine pour que nous vivions d'une manière qui soit vraiment digne de son nom. Amen. Je laisse la place à Sylvère.